de Jérusalem, dans le vieux quartier juif. Et là, il y a une expansion jusqu'à 10 voire 11 kilomètres autour de la ville. Ça a été construit, ça a été bâti. C'est fantastique, tout simplement. En 70 ans, on fêtait les 70 ans de l'État d'Israël, de l'État hébreu. Et c'est simplement impressionnant ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fait. Moi, je me rappelle, en 2002, j'avais été, mais dans le nord d'Israël, et l'aéroport, c'était un tout petit truc de rien du tout, un vieux bâtiment, mais tout petit. Et puis là, mais c'est immense, c'est énorme. On a dû prendre un bus pour aller jusqu'à l'avion, pour vous dire à quel point mais les choses ont poussé, ont grandi. Il y a des autoroutes magnifiques, il y a vraiment des infrastructures impressionnantes. Leurs autoroutes sont meilleures que les nôtres, hein, je vous dirais. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de combien Dieu bénit ce peuple, de combien Dieu bénit cette terre. Alors moi, un des messages qui m'a fortement touchée, c'était un monsieur qui s'appelle Dag Juliussen et qui est de Norvège, qui est norvégien. Et puis il dit en fait que l'antisémitisme est né en même temps que l'Église. Tous les pères de l'Église, sans exception, étaient antisémites. Et l'antisémitisme a 2000 ans. Moi, ça m'a touchée parce que on est tous chrétiens. Moi, je suis issue d'un milieu catholique et de me dire mais que les pères de l'Église étaient tous antisémites, c'est quand même bouleversant. Et il disait que Dieu est en train de réveiller l'Église actuellement. Dieu travaille dans l'Église des nations. Donc ça, c'est réjouissant. Dieu agit sur trois niveaux actuellement. Jésus qui bâtit son Église dans le monde entier, Matthieu 16, verset 18, ce n'est pas nous qui bâtissons, mais c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. En Luc 10, au verset 2, c'est Jésus le maître de la moisson. C'est lui, ce n'est pas nous. La moisson, finalement, elle ne dépend pas de nous en premier lieu, elle dépend d'abord de Jésus. Après, bien sûr, nous sommes ses collaborateurs, il a choisi de faire de nous ses collaborateurs, donc il va choisir de nous faire participer à ce que lui est en train de faire. Et il agit pour son propre peuple. Il a partagé, en fait, alors c'est difficile d'avoir des statistiques vraiment justes, mais d'après ce qu'il disait, il y a entre 50 000 et 90 000 musulmans qui se convertissent par jour actuellement. En Indonésie, qui est le pays le plus islamisé, 30% de la population est sauvée. Je ne sais pas si on peut dire ça de la France, j'en sais rien. Je n'ai pas de statistiques à ce niveau-là, mais voilà, 30% de la population qui est sauvée. Et le salut vient des Juifs, ça nous le savons tous. Le projet de Dieu est que le plus de personnes possibles parviennent au salut. Dieu travaille, il est le Seigneur de la moisson. Et Israël est le plan de salut pour toutes les nations. Israël est le plan de salut pour notre nation. Le fait que les Juifs ont crucifié Jésus est un problème pour l'Église, ou a été un problème, et est certainement encore un problème dans certaines églises, pour certaines églises. Mais si nous regardons Acte 3, il n'y avait que des Juifs lorsque Pierre a prêché. Il ne les traite pas en ennemis, mais il les appelle mes frères. Et c'est Dieu qui a accompli ce que les prophètes ont annoncé depuis toujours. Le peuple juif a rejeté le Sauveur afin que vous et moi nous ayons le salut, afin que nous puissions entrer. C'est pour ça que le peuple juif a rejeté le Sauveur. Et Dieu a permis ça. Dieu l'a permis. Lorsqu'ils ont crucifié Jésus, ils sont devenus sacrificateurs pour les nations. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a bouleversée. Je me dis, mais waouh! Et c'est vrai, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, on voit que les sacrificateurs, ils étaient là, ils sacrifiaient des brebis, des boucs, des machins, voilà, pour le peuple. Mais Dieu s'est servi de son peuple pour être sacrificateur pour nous, pour les nations. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a vraiment, vraiment troublée. Je me suis dit, mais waouh, Seigneur, merci. Et on sait que le peuple juif est voilé jusqu'à aujourd'hui pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Ça, vous le trouvez dans la parole de Dieu, c'est très clair. Dans Romains 11, 25, il est dit « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Alors, on ne peut que remercier ce peuple, finalement. On ne peut qu'être reconnaissant de ce que Jésus a utilisé ce peuple vraiment pour que nous puissions être sauvés. Et c'est aussi la raison pour laquelle mais le diable est cette nation. Il a de la haine pour Israël. Et Jésus reviendra quand deux choses seront accomplies. C'est lorsque l'évangile sera proclamé à toutes les nations et lorsque le peuple juif dira « Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ce sont les deux conditions qui vont faire que Jésus revient. Alors, je vous laisse le chapitre Ézéchiel, vous le lirez. C'est très clair quand on le lit. Moi, j'ai juste sorti quelques versets, vite fait. Et c'est à partir du verset 9. « Voici, donc c'est Dieu qui parle. » Pour le rétablissement d'Israël, voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, et ça on le voit. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Et Israël est en construction constante, vous le verrez avec des photos plus tard. Dieu œuvre en Israël, mais il œuvre aussi avec Israël, pour l'Église. Et qu'en est-il de l'Église? Il y a peu d'enseignements dans les églises de France par rapport à Israël, par rapport au rôle d'Israël, par rapport au rôle du peuple juif, pour nous, les chrétiens, mais aussi pour les nations. Et donc, une des choses importantes, c'est vraiment que ces choses-là puissent être enseignées dans les églises. Alors, Un des appels qu'il y a eu, c'est vraiment mais prier pour les pasteurs, qu'ils prennent conscience du rôle du peuple juif, qu'ils prennent conscience du rôle d'Israël et que ça soit prêché, que ça soit proclamé dans les églises, qu'il y ait des temps de veille, qu'il y ait des temps de prière pour Israël tout particulièrement. Et un des rêves, c'est que vraiment l'Église des nations puisse bénir Israël. Alors, prions vraiment pour une révélation, que nous soyons bien positionnés, que nous nous engagions aux côtés d'Israël pour soutenir et fortifier ce peuple. Je vous donnerai un petit témoignage plus tard, comment des gens bénissent Israël, comment ils font pour soutenir. C'est tout simplement fabuleux, c'est tout simplement extraordinaire. Donc voilà, j'ai fini pour cette partie. Il y aurait beaucoup, beaucoup à raconter, beaucoup à dire, mais on finirait, je ne sais pas moi, 3 heures de l'après-midi, 4 heures, j'en sais rien. Mais voilà, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment ce fait que mes dieux s'est servi de son peuple pour être sacrificateur pour les nations. Ça, c'est quelque chose d'énorme pour moi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
Ce qui est sûr, c'est que quand on va là-bas, en plus c'était un temps très particulier, fête des tabernacles, 70 ans d'Israël, un kairos quoi, un kairos, on s'est pris tous une déflagration, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, des rayonnements, et on n'est pas, on ne sait pas encore tout l'impact. Et ce n'est pas que nous, les 6 qui étions là, c'est vous tous. Même les visiteurs, parce que vous êtes là ce matin, donc ce n'est pas un hasard. Et c'est la France, et c'est des déflagrations. On est dans un temps incroyable, un temps de révélation. Le Seigneur est en train d'enlever les voiles sur les Juifs, on verra ce qu'il fait sur les Juifs messianiques, hein. mais sur les nations aussi, on a un énorme voile, et le Seigneur est en train d'enlever les voiles. Et Carlo, tu parlais de la lumière, mais la lumière, il y a une lumière qui commence à briller, enfin la lumière de la révélation qui est de plus en plus intense, et on ne sait pas où ça va nous conduire, mais c'est énorme, quoi, la révélation. Et c'est marrant parce qu'on a eu les messages complémentaires sur qui nous ont touchés. Et ce qu'on vous a dit, hein, le salut vient des Juifs, mais c'est aussi le fait que tout a commencé avec un projet de Dieu, comme Huguette l'a dit. Mais comment Dieu a voulu accomplir ce projet de rédemption du monde et de l'humanité, ben, il a commencé avec un homme tiré des nations, hein, Abraham, c'était l'actuel Irak, hein, rien à voir, enfin voilà, un homme, et il a bâti une relation d'amitié, un ami. Et à cet ami, il a fait des promesses. Et dans Genèse 17, 7, 8, les promesses sont très très claires. Donc on a un Dieu extraordinaire, un Dieu de relation personnelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pas un Dieu lointain, un personnel, des multitudes, mais non, c'est un Dieu de relation personnelle, un Dieu qui cherche des amis. Et il a bâti une amitié. On ne peut pas savoir le degré, la profondeur de l'amitié qu'il a liée à Abraham. Ce qui est sûr, c'est qu'Abraham a vu le jour de Jésus. Dieu lui a montré tous ses secrets, quoi, quelque part. Il a vu Jésus, c'est dit dans la parole, hein. Donc il y a une relation très forte qui s'est bâtie entre Dieu et Abraham, de compréhension, parce qu'Abraham a compris, il a offert Isaac, il a vu Jésus aussi. Il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé entre Dieu et Abraham. Et Dieu a fait des promesses. Et il a fait une alliance. Et c'est très fort dans Genèse 17, 7, 8. Il y a des promesses de deux ordres. Et ces promesses sont absolument toujours, toujours valables. Je le reprends parce que c'est des textes très forts. Et ça explique pourquoi Dieu est tellement, tellement ce cœur énorme qu'il a pour Israël, quoi. 17, 7, 8. Il dit, on ne t'appellerait plus Abraham, je t'appellerai Abraham, je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond, je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Perpétuelle. Une alliance perpétuelle, une promesse d'un pays, d'une terre concrète, naturelle, perpétuelle. Et le péché énorme, horrible de l'Église, ça a été la théologie du remplacement. Oser dire que Dieu a trahi son alliance, que c'est fini, la terre il la donne plus à Israël, que les Juifs c'est fini, c'est l'Église maintenant. Mais c'est une abomination. On a attristé le cœur de Dieu, on a tordu son identité, c'est beaucoup plus grave que ça, on a tordu l'identité de Dieu. On en a fait un Dieu infidèle, un Dieu qui trahit les alliances, un Dieu qui révoque ses promesses. C'est grave. Est-ce que là, en Jérusalem, tout à coup, on se dit, mais Seigneur, c'est le péché de l'Église des nations, y compris l'Église de France, hein, depuis des millénaires, quoi, depuis l'Église primitive, quasiment. C'est affreux ce qu'on a fait. Affreux parce qu'on a dénaturé la profonde identité qui est un Dieu de fidélité. Et tu l'as dit, Sandro, un Dieu profondément fidèle. On en a fait un Dieu infidèle. Et après, on s'étonne qu'on soit dans l'insécurité, qu'on soit tâtonnant, qu'on soit flageolant, un coup oui, un coup non. On a plaqué sur le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, on a plaqué le Dieu des païens, le Dieu Jupiter, le Dieu Zeus, qui sont très versatiles, hein, dans la mythologie, ça se voit très bien, ils sont hyper versatiles, hyper changeants. On a appliqué cette caricature au Dieu qui est infiniment fidèle. Et ça, c'est rien que ça, ça mériterait une énorme repentance. Et ça fait des siècles d'aveuglement de l'Église. Et en plus, on a osé être hyper orgueilleux, alors que Romains 11 nous dit bien, ne soyez pas orgueilleux, ne vous vantez pas, ne méprisez pas l'Olivier Franc, ne méprisez pas, parce que on peut aussi être nous retranchés. Il y a un péché d'orgueil, il y a un péché de suffisance, et surtout une profonde méconnaissance de l'identité profonde de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui... Le Seigneur est en train de dire, je suis un Dieu de fidélité. Et ça veut dire aussi un Dieu de vérité. Jésus le dit dans l'Apocalypse, je suis le fidèle, je suis le véritable. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie et notre là aussi en France, on se rend compte, on a un dualisme. On a le côté Dieu spirituel et le côté nature concret. C'est raté, c'est complètement raté parce que la parole, Dieu est dans le naturel et dans le concret. Il y a Yerushalayim, ça veut dire, c'est pluriel. Hein. Il y a la Jérusalem des lieux spirituels, et la Jérusalem naturelle. Et ces deux vont ensemble. On donne les promesses de Dieu, ça s'accomplit dans le concret, dans le naturel. Et nous, l'Église, on a beaucoup spiritualisé tout, y compris Ézéchiel 36 et Ézéchiel 37. On a tout spiritualisé, mais il y a aussi le naturel. Par exemple, je donne un petit verset tout simple. Chaque petit verset, il y a un impact énorme. Zacharie 14, 16. Voilà. Un petit verset, là, qui dit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées, célébrer la fête des tabernacles. » Ah ben, je peux vous dire, dans le concret, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des tas d'hôtels qui doivent se bâtir parce qu'il y a plein de nations qui viennent. Ça veut dire des tas de bus réquisitionnés de toutes les compagnies de bus possibles de Jérusalem parce qu'on était 6500 de toutes les nations. Ça, c'est du concret. Il y a plein de gens à nourrir. Alors oui, on avait des énormes buffets, là. À Engedi, 6500 personnes dans le désert à nourrir. Je ne vous dis pas la méga organisation. C'est du naturel, c'est du concret, quoi. Et puis c'est concret, c'est vrai, quoi. Le désert reverdit, bah oui, le désert reverdit, vous verrez les photos, bien sûr que ça reverdit. Jérusalem, ville ouverte, bah oui, parce que ça ne tient plus du tout dans les murailles de l'ancienne Jérusalem, ça s'étend. Les enfants qui jouent dans les rues de Jérusalem, comme dit Jérémie, bah bien sûr, on a vu des terrains de jeu, j'en ai photographié des terrains de jeu où il y a les enfants qui jouent. C'est concret, vous voyez, on a un Dieu hyper concret. Et en Israël, votre dualisme, spiritualisme, mysticisme, tout ça, c'est démoli parce que c'est hyper concret, quoi. Très, très, très concret. Alors, je dis, ça alors, Jérusalem est une bénédiction pour les nations. Ah bah oui, ils inventent plein de choses qui bénissent les nations. Vous savez que là, on s'est servi de clé USB pour montrer les photos. La clé USB, c'est inventé par Israël. Après, les tomates cerises, inventées par Israël. C'est vraiment pratique pour les salades. Après, vous avez quoi encore? Au niveau médical, ils sont formidables. Ils ont inventé des choses contre la maladie de Parkinson, hein. Puis le diabète, et puis ils font des opérations de réparer le cœur des enfants et des... Enfin, ils sont vraiment une bénédiction. Quand Dieu dit « vous êtes une bénédiction », ce n'est pas que dans le spirituel, c'est très, très concret. Ils désalinisent l'eau, ils exportent de l'eau à plein de pays qui en ont besoin, techniques d'irrigation, enfin, c'est du concret. Vous voyez, ils allument le concret et le spirituel. Et nous, on a besoin que ce fameux dualisme à la française, il soit... Alors, si vous voulez lui faire la peau à ce dualisme à la française, vous allez en Israël et tout ça, ça crame. Voilà, c'est hyper concret. Et puis on a Dieu qui alors oui bon je, bah, comment te dire ah oui une chose aussi qui est très forte. Romains 11 nous le dit, Israël, ils sont aimés à cause de leur père. Il y a eu cette énorme relation d'amitié, Abraham, Isaac, Jacob, il y a d'autres amis, hein. Dieu a eu des amis extraordinaires, David, bien aimé de Dieu, Daniel, bien aimé aussi, des relations tellement fortes. Dieu se tient sur ses promesses faites à ses amis comme Abraham. Et Jean 15,15 nous dit, je nous appelle, Dieu, Jésus, il cherche des amis. C'était une grande interpellation qui nous a été faite. Est-ce que vous êtes serviteur ou vous voulez être des amis de Dieu? Et sérieusement, on ne peut pas être ami de Dieu. On peut être serviteur, ça c'est sûr, hein, type vous savez, le fils aîné. Mais on ne peut pas être ami de Dieu si on ne comprend pas le cœur de Dieu qui vibre pour son peuple. Et les Haïd nous rappelaient un verset, puis ça n'a pas été dit à la conférence, mais il m'est revenu avec force, je vous le partage. C'est Jérémie 32 qui nous dit « Je les ramènerai dans leur pays de tout mon cœur, de toute mon âme, je les ramènerai. » Et ça, c'est très fort sur le cœur de Dieu, il veut ramener son peuple. Et c'est le seul passage où on parle que Dieu fait quelque chose de tout son cœur et de toute son âme. Il nous dit, hein, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, mais Dieu fait, il ramène son peuple de tout son cœur et de toute son âme. Et actuellement, il met sur le, bon c'est un peu décousu ce que je dis, il met sur les cœurs des chrétiens de participer au retour, par exemple, de tribus improbables. Les Éthiopiens, les Félachas éthiopiens, hein, ils vont les chercher dans des fins fonds de l'Afrique. Voilà, je répète, hein, 350 km à pied dans le désert. Ils sont poussés en avant par ce retour, quoi, cette alia. Et après, les chrétiens aident les Israéliens et l'agence juive à les rapatrier. Et puis là, il y a des tribus perdues dans l'Asie centrale aussi qui sont rapatriées. Enfin, il y a un mouvement, une alia extraordinaire, c'est l'accomplissement des promesses, quoi. Donc, si on veut connaître, être un ami de Dieu, il faut comprendre ce qui est sur son cœur. Et actuellement, ce qui est sur son cœur, ce qui fait de tout son cœur, c'est ramener son peuple en Israël. Et ils ne seront plus jamais déracinés. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on nous a vraiment martelé. Il y a eu, à deux reprises, 2/3 des Juifs ont péri. À deux reprises. Est-ce que vous savez à quelle c'était ? Les deux reprises, pas qu'une, hein, deux. Deux fois. Deux fois, les 2/3 de la population juive ont péri. Donc la colère de Dieu, oui, ils ont vécu, hein, ils savent ce que c'est. C'était première fois, bon, il y a eu toutes les déportations, hein, Babylone et tout ça, mais même après, première fois, l'an 70, Jérusalem détruite, et puis c'était affreux, quoi. Il y a eu des horreurs dans Jérusalem assiégée, enfin vraiment là, ils ont vécu ce que c'était de ne pas être protégés par Dieu. Et puis la deuxième fois, bien sûr, c'est la Shoah. Mais là, maintenant, c'est fini. La parole est claire, je ne les arracherai plus. Il y a des paroles prophétiques qui disent ça très bien. Ils ne seront plus arrachés. C'est maintenant un temps de restauration d'Israël. Et, ah oui, on va regarder Jérémie 23, 7, 8, pour montrer la précision de la parole biblique. Chaque promesse, chaque prophétie, chaque verset de la Bible est très, très, très vrai. Alors, bon, intellectuellement, on sait que c'est vrai, bien sûr, intellectuellement. Mais dans le cœur, tu dis, waouh, c'est si vrai que ça. Ben oui, c'est si vrai que ça. Jérémie 23, 7, 8, par exemple, c'est d'une précision incroyable. Jérémie 23, 7, 8, il nous dit... Ça a été mentionné, 23, 7, 8. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, ils habiteront dans leur pays. Eh bien, du temps de l'Égypte, 1500 ans avant Jésus-Christ, 1 million de Juifs, à peu près, en gros, sont sortis d'Égypte. L'Alia du Nord, plus d'1 million de Juifs russes ont quitté la Russie de nos jours. Voilà. Et c'est la parole qui dit, voici, les jours viennent, ben c'est maintenant. On est dans un temps prophétique incroyable. Les jours viennent, oui, c'est maintenant. Et ça continue, l'Alia, hein, ça continue. Israël, Amos 9, 14, 15, nous dit, Israël ne sera plus jamais arraché de sa terre. Voilà, terminé. Donc, la domination des nations a pris fin en 67, hein, sur Jérusalem. Donc maintenant, le cœur de Dieu, il est vraiment, l'horloge de Dieu, c'est Israël. Et puis, sur les nations, ben, ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui va se passer pour les nations. Bon, ça, c'est un autre message. Hein. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est la reconstruction. Et tout nous dit que Jésus vient bientôt. Et c'est étonnant parce que, quand on est là-bas, le retour de Jésus sur le mont des Oliviers, ça paraît... tout naturel, ça paraît évident, c'est ben oui, le roi va revenir sur le mont des Oliviers. Et voilà, vous avez cette articulation du surnaturel et du naturel qui est évident. C'est simple, c'est très simple. Voilà, les enfants, on dansera dans les rues de Jérusalem, ben on vous montrera, bien sûr, on danse, oui, en vrai. et voilà. Et puis aussi, je voulais dire aussi, c'est que aussi quelque chose d'extraordinaire. On a eu un pasteur messianique qui nous a parlé. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, pour montrer les temps dans lesquels on vit, c'est qu'il y a actuellement 25 à 30 000 juifs messianiques. C'est un miracle, parce qu'il y a quelques années, ils étaient quelques centaines, quoi. Et il y en a plus maintenant de juifs messianiques qu'à l'époque des Actes, de la première Église. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Ézéchiel 37, qui nous parle, vous savez, vous connaissez tous Ézéchiel 37, hein, la vallée des ossements desséchés. D'ailleurs, on a eu droit à une extraordinaire présentation musicale, hein, de la vallée des ossements desséchés. Vous avez d'abord la restauration physique, et c'est ce qu'on a, restauration physique. Mais il y a une autre phase, c'est la restauration spirituelle. Et là, ça commence. 30 000 juifs messianiques, ça commence. Et puis aussi, la première fois depuis l'an 70 qu'on a de nouveau un gouvernement apostolique messianique à Jérusalem et en Israël. Ça, c'est d'ailleurs, on prie beaucoup pour la connexion de Luc et Manu en tant qu'apôtres de RNC et France avec le gouvernement apostolique de juifs messianiques. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça s'est jamais fait depuis l'an 70. Et là, de nouveau, c'est en place. Et donc, on est vraiment encouragé, on dira, de s'engager, se positionner, prier pour ça, parce que si leur, comme dit Romain, leur retour à leur révélation de Jésus, ce sera la vie d'entre les morts, mais pas seulement pour eux, mais aussi pour toutes les nations. Et on sait que depuis 48, eh bien, la restauration d'Israël correspond à une expansion de l'Église mondiale incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup dans les nations du Sud. Hein. Et ça se voit parce que nous, Roland et moi, mon mari et moi, on était là-bas il y a 35 ans. Fête des tabernacles, la même chose. Il y avait énormément de nations. D'abord, on était moins nombreux. Puis il y avait beaucoup de nations anglophones. C'était Afrique du Sud, anglophone, pas trop, enfin si, en partie, Canada, États-Unis, Australie, vous voyez, anglophone. Mais cette année, je peux vous dire, l'Asie, à fond, l'Asie. D'ailleurs, pour la petite histoire, les trois églises chinoises sont unies, ça c'est miraculeux aussi. Église de Taïwan, église de Hong Kong, église de Chine continentale sont absolument unies. Et c'est une puissance de frappe, et puis ils ont aimé Israël. Les îles Fidji, les îles Cook, on les a vus défiler, mais à fond, hein, en masse. Les îles lointaines, quoi. Et puis l'Afrique, ça parlait français, mais c'est à cause de l'Afrique. Hein. Je peux vous dire, l'Afrique francophone, à fond. Et puis, bien sûr, l'Amérique latine. Enfin, c'est extraordinaire, cette expansion de l'Église qui correspond à l'expansion d'Israël et au retour d'Israël. Donc, plus on prie pour Israël, plus ça accélère la restauration de l'Église mondiale, quoi. C'est évident. Et puis, juste pour vous dire qu'il y a une résurrection spirituelle qui est là, qu'on a besoin d'encourager, parce que c'est pas évident d'être pasteur messianique en Israël. Hein. Le terrain est dur. Et en plus, moi je trouve qu'il y a des similitudes beaucoup avec la France, parce qu'ils ont plein de différences, plein de tribus différentes. Enfin, ce serait un autre message encore. Toutes les tribus qui se retrouvent entre les Félachas noirs, et puis les Juifs russes, et puis les Juifs américains, et les Juifs français, et puis les Séfarades, et les Ashkénazes, et il y a qui encore. Mais pour faire l'unité là-dedans, alors qu'ils nous disent « Priez pour la paix de Jérusalem, mais priez aussi pour l'unité de Jérusalem. » Parce qu'il y a du boulot. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au-delà de toutes ces... Et puis les divisions politiques et tout, le Seigneur, il est en action. Et ça, c'est très, très, très réconfortant. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, bon, peut-être que... on va reprendre... Alors, simplement, laissez votre cœur se laisser impacter. Et puis l'espérance. La fidélité de Dieu, ça, c'est sûr. L'espérance. Parce que ce que Dieu a fait pour Israël dans la résurrection, eh bien, il le fait pour nous aussi. Voilà. Donc, on passe à la suite.
Amen, amen. Amen. Alors, on va peut-être commencer à passer des photos, des vidéos.
Celle d'En-Gedi.
Alors, je me pousse.
Nous sommes à En-Gedi et on est le premier soir de la fête des tabernacles. Une ambiance extraordinaire, des chants, on est des Africains, toutes les nations du monde représentées.
Plus d'une centaine de nations représentées.
47 Martiniquais qui représentent la France. Notre petit groupe de 6 Alsaciens. Beaucoup d'ambiance.
Ouais, nous sommes au bord de la mer morte dans le désert. Hein.
40 degrés à l'ombre. Les drapeaux se promènent partout. Jaune, c'est les Brésiliens. Il fait très chaud encore.
Une organisation de dingue. Franchement dit, accueillir 6500 personnes, les nourrir, parce qu'on a eu notre repas ce soir-là, mais une organisation de dingue, j'ai jamais vu ça. Autant pour les bus, je ne sais pas combien il y avait de bus sur le parking quand on est retourné vers les bus, mais c'est pareil, une organisation fabuleuse. Hein. Il y avait des personnes qui nous balisaient la route avec une petite pancarte orange, et puis on savait qu'il fallait qu'on suive ce chemin-là pour retrouver notre bus, pour pas prendre un mauvais bus, pour pas atterrir dans un mauvais endroit. Mais c'est fou, quoi. Rien que l'organisation, mais je me dis, mais waouh! C'est vrai, Annelle disait l'autre jour, par rapport au séminaire Mathurin Cordier, quand il faut nourrir 250 personnes, nous on est dépassés, mais là, 6500, bonjour!
Après le concert, alors c'est le même endroit.
Oui. Et il y avait la pleine lune. Et ils nous ont bien précisé que, eh bien, Israël marche selon le calendrier lunaire. En dehors de cette soirée, on a vécu des temps de louanges, de proclamations pour les nations, mais waouh, c'est tout simplement renversant. Moi, je vous souhaite à tous de pouvoir vivre ça un jour, vraiment. Je vous encourage à y aller, à participer. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Après les photos de Jérusalem, pour vous montrer combien Jérusalem est verdoyant. C'est impressionnant. À l'horizon, le système de ça, c'est le jardin du tombeau. Et là, on a pu... Alors, ils ont fait deux services parce qu'on était beaucoup trop nombreux pour un seul service. On n'aurait pas tenu tous ensemble. Donc, ils ont fait deux services, mais on a pu prendre la Sainte Seine avec toutes les nations réunies. Ça, c'était vraiment un temps fort aussi. C'était magnifique. Alors là, vous voyez les grues, on les voit un peu, on les voit pas trop bien, mais partout où on passait, il y avait des grues, il y avait des bâtiments en construction. On a l'impression que le moindre mètre carré, eh ben, il continue de bâtir, il continue de construire. C'est fabuleux, quoi. Et puis après, mais c'est vert. Moi, j'ai été époustouflée de voir à quel point, mais c'est vert de partout. Ça, ce sont des fruits. Et la pelouse, pour vous dire, il faisait 34 l'après-midi, hein, mais leurs pelouses, elles sont vertes. La mienne, elle est cramée encore aujourd'hui, mais chez eux, les pelouses sont vertes. Moi, j'étais bluffée, j'étais impressionnée. Regardez toute cette verdure, c'est tout simplement fabuleux. Alors, c'est des photos qui ont été prises dans le bus, en passant, comme ça, on prenait des photos, simplement pour vous montrer à quel point mais Jérusalem est beau et vert. Et il y a une luminosité particulière. On appelle Jérusalem la ville lumière, mais il y a effectivement une luminosité particulière. Alors, je sais pas si c'est dû uniquement, parce que c'est vrai que tous les bâtiments sont faits avec une espèce de pierre jaune, la pierre de Jérusalem. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû? Moi, je dirais que c'est dû à autre chose, mais vraiment, il y a une luminosité extraordinaire. C'est fabuleux.
C'est l'ambassade. Après, c'est, voilà, l'ambassade. Alors, il faut savoir que c'est, qu'en 1980, toutes les nations ont retiré leur ambassade de Jérusalem pour les mettre à Tel Aviv. Mais les chrétiens ont dit, nous, on respecte la parole de Dieu. Dieu a dit que la capitale, c'est Jérusalem. Donc, c'est sa ville. Donc, on maintient une ambassade, mais une ambassade pour les chrétiens de toutes les nations. Et donc, ils louent toujours ces magnifiques locaux. Hein, voyez le patio, hein, c'est magnifique, magnifique dans la verdure. Ils louent ça aux ambassades. Donc, c'était quatre ambassades africaines qui avaient leurs locaux là. Et leur rêve, ils ont un rêve, c'est d'acheter en dur ces locaux qui sont splendides. Hein, splendides. Et on a eu un temps de prière là. On était une poignée de plusieurs nations. On a prié, on a béni les gens de l'ambassade. D'ailleurs, il y avait une Française hein, dans le staff de l'ambassade, une ancienne élève du Daniel. Une ancienne élève du ouais. La seule Française, c'était une ancienne élève de l'école Daniel. Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé. Et puis, on a eu un temps de prière profond. Et on a vu, enfin, le cœur du Père, il est touché quand on bénit Israël, quand on est ensemble les nations. Et d'ailleurs, très, très, c'est vraiment à la fin de ce temps de prière qui était tellement profond, on touchait le cœur de Dieu, du Père. Eh bien, parmi nous, il y avait un Allemand qui avait un problème de santé. Et toutes les nations, on s'est mises autour de cet Allemand pour prier pour sa guérison. Il y avait une Kenyane, il y avait des Scandinaves, moi, la Française. Enfin, on a prié, c'était d'une profondeur et d'une... C'est vraiment des gens, ils prient à l'ambassade. Hein. On est bien représentés. Nous, les chrétiens des nations, on a vraiment bien représenté. C'est des gens de cœur, des gens de prière, des gens d'écoute du Saint-Esprit. Vraiment une très belle qualité de frères et sœurs là-bas. Voilà. Et puis après, il y a...
Ah, la marche, oui. Alors ça, donc moi je n'ai pas participé à la marche, le bus m'a emmenée jusqu'au point d'arrivée Et puis là, j'ai rencontré... On peut passer les photos peut-être pendant que je parle ?
C'est la vidéo là, carrément.
C'est la vidéo.
Bon, ben je laisse passer la vidéo. Et puis alors, fallait voir certains costumes. Certains étaient venus avec les costumes de leur pays, mais des choses d'une beauté incroyable.
Normalement, il y a le son. Ça, c'est les Philippines.
C'était simplement mais montrer aux Juifs combien on les aime et puis qu'on va être là pour eux. Et puis les bénir. Et tout le long du chemin, il y a eu des petits cadeaux de distribués par les différentes nations, des petits drapeaux, d'autres choses qui ont été distribuées. Et puis on voyait combien mais ces gens étaient heureux de recevoir ces choses.
Guatemala. Et puis on a les photos quand même pour montrer que la France, on était là aussi. C'est par photo. Voilà, la photo.
Merci Alice pour ton travail.
Ah, non,
non, ça c'est l'autre vidéo. Donc moi j'ai été jusqu'au point d'arrivée de la Marche des Nations. Et puis là, ben, j'attends. Et la première famille que je vois arriver, une famille avec quatre petits bambinos et voilà. Ils parlaient français.
Et puis, il y a d'autres drapeaux de France. Hein, moi, j'en tenais un. Roland en tenait un. En fait, la délégation française était composée d'une poignée de métropolitains, 6 Alsaciens, 3 de la région lyonnaise et 2 de la région parisienne qui ne sont pas des vrais Français parce qu'ils sont des missionnaires américains et canadiens. Donc, en tout, on était 9 métropolitains et, heureusement, entre 40 et 50 Martiniquais. D'ailleurs, quand on a fait le défilé des nations premier soir, hein, on a fait passer toutes les nations. Le drapeau de France, on est passé à la lettre F. Voilà, alors on était tout contents. Ouais, la France. Et le même drapeau français est repassé à la lettre M. Martinique. Voilà. C'était un peu, on s'est fait un peu remarquer. Bref. Mais voilà, donc tous les frères et sœurs martiniquais qui étaient là. Puis il y avait des belles banderoles. On aime Israël avec la tour Eiffel et puis des chœurs pour Israël, tout ça. Voilà.
Oui, donc et cette famille, cette petite famille juive, eh bien, parlait français. Donc je me suis adressée à eux puisqu'on pouvait discuter ensemble. Et puis en fait, ils viennent tous les ans à la fête, à la Marche des Nations parce qu'elle a dit ça nous bénit tellement. Il y a tellement à recevoir et ça nous bénit tellement qu'on ne veut pas rater ces moments-là. Quoi. Ils étaient vraiment mais heureux d'être là et de pouvoir voir toutes les nations qui défilaient, qui étaient là pour les bénir, pour les aimer, tout simplement. Et la deuxième personne que je rencontre, ben, c'est encore quelqu'un qui parle français avec 3 petits-enfants. Et c'était en fait la mamie de ces petits-enfants. Et puis on engage la discussion. Et puis, en fait, c'est une dame qui habite encore à Paris. Et puis, je lui ai posé la question, comment est-ce que vous vivez le fait d'être juive en France ? Et elle me dit, il n'y a pas plus longtemps que 3 semaines en arrière, j'ai traversé une place, j'ai rien fait, j'ai rien dit, on m'a traité de sale juive. Et je me dis, là, il y a vraiment un problème. Et elle avoue qu'elle a peur. Elle a peur pour sa vie, elle a peur. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas en Israël ? Vos petits-enfants sont là, vos enfants sont là. Et elle a dit, mais la vie, elle est dure, elle est chère. Donc elle travaille encore et elle reste en France pour pouvoir aider ses enfants.
Il y a les photos de la Pais Arena. On avait un immense auditorium.
Alors ça, c'est le premier soir. C'était impressionnant de voir tout ce monde. Bref, c'était, oui, avec tous les drapeaux des nations. Et puis, c'était en fait la présentation des nations. Donc, chacun est venu est monté. Il y avait un porteur de drapeau. Chacun est venu avec le drapeau de sa nation. Et on a vu toutes ces nations, mais sur le devant de la scène, c'était magnifique. Et puis, pareil, des temps de louange, mais de la folie, quoi. Vraiment, moi, je dis, mais les jeunes, mais allez-y. C'est pour vous, quoi. C'est waouh. Ça déménage, mais à un point. Alors, il y en a qui connaissent peut-être Eddie James. Il était là. Il est énorme, dans tous les sens du terme, mais il est énorme, ce gars-là. Il vous met le feu, il vous met la patate, il vous met. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est waouh. Ça c'était pas là. Il y avait pas des danses aussi. Il y avait pas un petit film pour la Païs Arena?
Non.
D'accord. Alors le dernier soir, on a changé d'endroit, on a changé d'hôtel et on est allé dans la vieille ville. Et puis là, ben c'était Shabbat, vendredi soir. Pas un chat dans les rues. T'avais deux ou trois taxis qui se baladaient, mais c'est pas des juifs qui conduisent, ce sont des arabes. Et puis t'avais personne dans la rue, tout était vide, tout était. Et puis 7h du soir, toutes les boutiques ont ouvert leurs portes. Et en l'espace de le dire, vraiment le temps de le dire, mais les rues, elles étaient bondées de monde. Mais une vie foisonnante, mais quelque chose d'impressionnant. C'était extraordinaire de voir tous ces gens. Et puis alors, pas loin de notre hôtel, n'est-ce pas? On a mis les boules qui est, mais malgré ça, n'est-ce pas? Il y avait un podium avec, je ne sais pas, c'était un papa et son fils qui jouaient du piano et qui chantaient. Et tout d'un coup, eh bien, on a vu les papas, les papis, les petits-enfants se mettre à danser. Et vraiment, mais la joie qui coulait, c'était extraordinaire de vivre ça, de voir ça. Même si au niveau du son, ce n'était pas tout à fait... Il y avait des fausses notes aussi, mais c'est pas grave. Mais de voir cette vie foisonnante, et puis de voir ces gens, mais qui ont été tellement persécutés, qui le sont encore aujourd'hui, mais s'exprimer avec tant de bonheur, avec tant de liberté, avec tant de joie, mais c'est époustouflant, tout simplement. Alors, sur les vidéos, on le voit pas forcément. On voit sur... Bon, là, on le voit avec des enfants. Par contre, les femmes, non, elles ne dansent pas. Mais les hommes vont aussi chercher ben, des gens, des nations qui sont là, qui regardent, et ben, ils vont les chercher et puis ils les entraînent dans la danse. C'est tout simplement beau à voir, quoi. C'est fabuleux.
Y compris notre pasteur. Hein.
Oui, ça a été.
Et on oui. Pour, c'est, on termine, hein, ou t'as d'autres choses à dire?
Oui.
On termine. Alors, c'est, en fait, il y a eu un soir consacré aux invités israéliens.
Je voulais juste encore ajouter quelque chose avant. C'est que quand on a été au Kotel, donc au mur des Lamentations, eh bien, il y a une chose qui m'a époustouflée. J'ai jamais vu autant de poussettes à la fois. Alors, toutes les mamans avec leurs bébés, avec leurs poussettes, avec deux, trois enfants étaient là. Et ce qui était beau, c'est de voir ces enfants petits. Il y avait une petite fille devant nous. Elle a chopé sa maman par le pan de sa robe et elle lui a demandé son livre de prière. Parce qu'elles sont là tous les vendredis soirs pour prier. C'était Shabbat, donc c'était le vendredi après-midi. Et ces petites filles de 3-4 ans qui demandaient leur livre de prière à leur maman, c'était beau comme tout. Et Luc a pris une photo, j'espère qu'il va vous la montrer, où il voit un papa avec un tout petit enfant qui sait à peine tenir debout. Il l'a posé contre le mur. Alors les hommes et les femmes sont séparés, hein, donc ça nous on l'a pas vu, mais il nous a montré la photo. Il a posé son petit bonhomme contre le mur et il s'est reculé et il l'a laissé là, debout contre le mur. Et j'y mets la transmission générationnelle. Eux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Dès le plus jeune âge, hop, on y va. Et c'est beau à voir, c'est beau à voir. C'est vraiment magnifique.
Oui, il y avait une soirée, c'était jeudi soir, hein, spéciale Israël, c'est-à-dire qu'on invitait des Israéliens. Et en particulier, là on ne le voit pas sur la vidéo, mais ils ont invité des survivants de la Shoah, parce que l'ambassade chrétienne a une œuvre extraordinaire à Haïfa. Ils ont ouvert un home pour les survivants de la Shoah, parce que c'est des gens qui étaient enfants ou ados au moment de la Shoah. Mais ils sont âgés maintenant, ils ont très peu de moyens, une toute petite rente de l'État. Ils sont souvent isolés parce que voilà, les familles sont décimées, quoi. Donc il y a beaucoup de solitude et de besoins physiques et financiers. Et le cœur de Dieu a touché ces chrétiens, des gens formidables, hein, des chrétiens des nations, qui ont ouvert ce home et qui rêvent d'élargir. D'ailleurs, ce home, on a fait une offrande, hein, une collecte pour élargir ce home. Donc ces survivants de la Shoah étaient aussi là cette soirée pour les Israéliens. Et puis il y avait aussi des enfants. Alors ces enfants, ils sont tous élèves de la seule école messianique de Jérusalem. C'est une école messianique. Alors peut-être que Luc et Manu pourront avoir le contact. Et la dame que vous voyez à gauche, c'est l'épouse du vice-président de l'ambassade. Alors son mari Jürgen Bühler, il est allemand. C'est un signe, hein, fort. Hein. Le vice-président de l'ambassade chrétienne à Jérusalem, il est allemand. Il a épousé cette dame que vous voyez, qui est serbe. Et donc ils bénissent en tant que nation, ils bénissent Israël et ils vont chanter un chant. Alors j'ai un chant vraiment juif, hein, pas du tout, même pas messianique, hein, mais les paroles sont très fortes et j'ai trouvé la traduction des paroles. Alors vous allez le voir. Laissez-vous simplement, on va terminer avec ça, mais laissez-vous simplement toucher le cœur, quoi. Ce qui a eu lieu pour nos ancêtres s'applique aussi à nous. Ce n'est pas seulement un individu qui s'est tenu contre nous pour nous détruire, mais bien plutôt dans chaque génération, ils se tiennent contre nous pour nous détruire. Mais le Saint, l'unique Saint, béni soit-il, nous rachète de leurs mains. C'est notre Rédempteur, il nous rachète de leurs mains. Vous verrez, ce texte revient, cette phrase revient. Le Saint, le Saint, béni soit-il, nous rachète de leurs mains. Et donc là, vous avez une partie de l'église messianique, hein, ses enfants, c'est l'église messianique de Jérusalem, qui chante ce chant avec cette chrétienne des nations serbes qui les sert. Et c'est quelque chose de très fort. Et je voulais simplement écouter et voir ça. Et après, on priera après. Hein.
Thank you.
On a vraiment eu des temps vraiment magnifiques comme celui-là. On a eu Ruth Fazal, pour ceux ou celles qui connaissent. C'est une violoniste, elle est fabuleuse. Elle a écrit une, on ne peut pas appeler ça une comédie musicale, mais vraiment quelque chose de très beau. Et elle l'a mis en image. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, et avec des chanteurs lyriques, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et son rêve, ça serait de pouvoir mais le jouer avec un orchestre philharmonique, et puis vraiment faire un spectacle en temps réel, quoi. C'est vraiment, on a eu des danses israéliennes, on a eu vraiment un peu de tout. On a été bénis aussi par les Asiatiques qui ont pris un temps de louange un matin. C'était vraiment fabuleux. Et puis alors, pour la petite histoire, on a été bénis jusque dans l'avion. Je vais terminer par là. En fait, et puis même quand on était encore dans l'aréna, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se plante devant moi. Elle me dit « Yadoubis di Huguet !» Je dis « Ya !» Et en fait, pour les plus anciens, vous vous souvenez certainement de l'église d'Aachen, les hommes qui sont venus à bicyclette et puis qui ont atterri chez nous, les femmes étaient venues en voiture. Et en fait, c'est un couple d'Aachen donc, qui était aussi à cette conférence. Et je dis, waouh, Seigneur, c'est fabuleux. Ça fait au moins 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Et puis là, pof, il faut qu'on se retrouve à Jérusalem. Et puis comme j'avais des faveurs spéciales parce que je marchais avec deux cannes, arrivé à l'aéroport, on me descend donc en fauteuil roulant jusqu'à l'endroit où il fallait que j'attende, que le bus vienne me prendre avec le chariot élévateur pour aller dans l'avion. Et puis là, il y a un couple qui discutait en allemand avec un autre monsieur, et puis spontanément avec Lydie, on s'est joint un peu à la conversation. Et puis, ils nous ont partagé, en fait, on leur a demandé ce qu'ils faisaient là, d'où ils venaient. Et en fait, ils vont régulièrement en Israël, 3-4 mois par an, des fois plus. Et ils vont dans la bande de Gaza pour pouvoir aider les enfants traumatisés, les jeunes filles, ils en ont aussi qui sortent de la drogue, des choses comme ça. Et lui, il fabrique des marionnettes. Grande comme ça, haute comme ça. Et elle fait des marionnettes de doigts pour les petits-enfants et il leur raconte des histoires. Et c'est vraiment, on voit, il nous a montré une vidéo, combien mais ces gens sont appréciés, combien ils aiment ce qu'ils font et combien les Juifs sont reconnaissants par rapport à ce qu'ils font. Donc c'est vraiment un des moyens d'aider, de consoler aussi ce peuple. C'est un couple qui est à la retraite, ils vont avoir 70 ans l'année prochaine. Ils sont en fait d'origine néerlandaise et ils vivent en Suisse, à St. Gallen. Et alors ce qui était drôle, c'est que le couple d'Allemands était dans le même avion que nous aussi. Et puis ces gens-là étaient comme par hasard assis à côté de nous. Et ce couple d'Allemands connaissait en fait cette famille juive. Alors c'était trop marrant de se retrouver comme ça. Et au bout d'un moment, cette dame donc, qui habite en Suisse, elle me dit « Mais vous n'êtes pas chrétien ?» Je dis « Si, si, on est chrétien. » « Mais nous aussi !» Et tout d'un coup, on s'est mis à chanter « Evenu Shalom » dans l'avion. Et il y a un jeune juste assis devant moi qui a chanté avec nous. C'était extraordinaire de voir ces connexions qu'on n'a pas cherchées, mais qui sont vraiment de Dieu, quoi. C'est vraiment quelque chose de fabuleux d'avoir pu vivre ça, mais jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment. Et donc, une des choses qui est sur notre cœur, c'est vraiment de vous encourager à prier, de vous lever dans la prière pour ce peuple. Je crois que c'est la première part. Après, il y aura peut-être d'autres choses. Mais je crois qu'une des choses qu'on est capable de faire chacun, c'est vraiment de prier pour Israël, de prier pour les Juifs, de prier pour la paix de Jérusalem. C'est vraiment, je crois, le premier mandat que Dieu nous donne et qu'il veut placer sur notre cœur aujourd'hui. Prions pour le réveil spirituel de ce peuple. C'est vraiment le mot d'ordre qui nous a été donné. Prions pour le réveil spirituel des Juifs.